Nothing gained, nothing tried. Very few even try. Most just wanna get high. From the cradle to the grave. Don't wanna be your slave. And I'm not gonna take it how you wanna. Love me or hate me. Support me or snake me. Either way I show love. Let it make me or break me. I'm the queen of self-esteem. Don't sweat the cream. Just set the scene. Get screamed like how you mean. Straight up. On a string, like them hoes sucking on your thing. Overworked and underpaid for days. Behave, I'm not gonna be your slave.
Good evening and welcome to Amandla, 1 hour of African current affairs brought to you in English and French by the Group for Research and Initiative for the Liberation of Africa. Tonight we have an amazing lineup of guests in French and just a wee little part in English towards the end of the show, where we'll be taking a look at the really explosive situation in Burkina Faso that is both exciting and quite frightening all at the same time. And if we have a chance, we'll also take a look at Vue d'Afrique. The African Film Festival will be in full swing, and we thought we'd take a peek at some of our faves. So please stay tuned to Amandla here on CKUT 90.3 FM.
Bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Amandla, votre émission hebdomadaire d'information sur l'Afrique qui vous est présentée par le GRILA, le groupe de recherche et initiative pour la libération de l'Afrique. Nous allons avoir aujourd'hui dans l'émission, nous allons commencer avec une entrevue que mènera Mélanie Lamonde, entrevue avec Moussa Amadou Djengaré, auteur d'un film de fiction Aïssa, Amour ou Chantiment. Ensuite, nous aurons une entrevue avec le Burkinabé Ousseni Ouédraogo sur la situation explosive au Burkina. Et en fin d'émission, entrevue avec Denis Touga sur le Forum international Investissement minier et développement en Afrique qui se déroule ce vendredi. Donc, restez à l'écoute de votre émission hebdomadaire Amandla.
Oui, bonjour à tous, bienvenue à Amandla. Alors, ce vendredi 29 avril 2011, s'amorce la célébration du 27e Festival international de cinéma Vue d'Afrique qui se déroulera jusqu'au 8 mai prochain. C'est un événement incontournable qui témoigne de la vivacité et diversité de la production cinématographique sur l'Afrique et la région créole. Le rendez-vous est à Montréal du 29 avril au 8 mai prochain. Et cette année, la programmation est riche et variée. Plus de 40 longs-métrages, 22 documentaires, 50 courts-métrages. Et pour souligner l'ouverture de Vue d'Afrique à Amandla aujourd'hui, nous nous arrêtons aujourd'hui au Niger, un grand pays de cinéma dont ses fils tels Oumarou Ganda ou encore Mustapha Alassane sont de véritables légendes du cinéma africain. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir en direct de Niamey au Niger Moussa Amadou Djengaré, cinéaste nigérien, producteur et réalisateur, invité cette année à présenter le 2 mai prochain lors de Vue d'Afrique son premier long métrage fiction Aïcha, Amour ou Châtiment. Bonjour Moussa.
Eh oui, bonjour.
Alors Moussa, merci infiniment pour cette entrevue que tu nous accordes aujourd'hui. D'abord, tu as acquis une formation internationale dans plusieurs pays, en Arabie Saoudite, à Saint-Louis au Sénégal, au Niger, en France, en Côte d'Ivoire et puis au Bénin. Depuis tes débuts, ta filmographie reste très inspirée par la culture nigérienne et tu dépeins plusieurs aspects, la famille, les traditions, les mœurs et coutumes, l'écologie, les aspirations de la jeunesse et j'en passe. Moussa, est-ce possible de dévoiler ici en quelques mots pour nos auditeurs le sujet de ton tout dernier film, Aïcha, Amour ou Châtiment?
Ok, donc merci pour l'occasion que vous m'offrez. Donc le film qui sera en compétition cette année au Vue d'Afrique, c'est Aïcha, Amour ou Châtiment. Donc c'est une fiction de 110 minutes tournée dans la région de Maradi qui est à 750 km de Niamey. Donc dans cette fiction, on relate le problème de mariage précoce et forcé qui sévit dans la région de Maradi en général et dans tout le pays, en tout cas dans tout le Niger en particulier. Donc il s'agit d'une histoire inspirée d'un fait réel que moi-même personnellement j'étais témoin. Donc ça parle un peu d'une petite fille de 14 ans qui est élève, une élève qui est en tout cas très brillante à l'école. Donc elle est admise à son certificat, donc elle devait quitter le village pour aller en ville continuer les études. Mais malheureusement, dans nos villages, les parents ne supportent pas qu'une petite fille quitte son village. Donc, c'était son cas, elle ne doit plus quitter le village, on doit la donner en mariage à son cousin. Donc, il y a tous ces problèmes jusqu'à l'accouchement et la fistule intervient. Donc, c'est un peu le résumé du film Aïcha, Amour ou Châtiment, qui sera en compétition cette année au Vue d'Afrique.
D'accord. Auparavant, tu as produit plusieurs films capsules de sensibilisation sur des thématiques sociales pour ton compte et pour le compte d'ONG humanitaires qui œuvrent au Niger. Alors, selon toi, le cinéma peut-il être un outil efficace d'émancipation ou de changement social et comment?
Oui, le cinéma, moi je me dis que le cinéma est le meilleur support de sensibilisation et de change, en tout cas pour pousser toute une population à un changement de comportement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une seule séquence d'un film peut changer toute une vie d'une population. Donc en Afrique, les gens sont trop calés à la télévision, donc de toute la nuit, les gens, toutes les familles, en tout cas presque à 80%, tout le monde est devant sa télé, tout le monde suit la télé. Donc je me dis qu'avec la télévision, avec le cinéma, on peut sensibiliser les gens, on peut vraiment pousser à un changement de comportement par rapport aux multiples problèmes que nous vivons actuellement en Afrique.
Tout à fait, donc, tu témoignes...
Moi, je choisis...
Oui, Moussa?
Oui, je vous écoute.
Oui, d'accord. Tu témoignes aussi d'une production cinématographique qui est remarquable, qui est marquée, comme on a dit, de sujets engagés. Tu as réalisé plusieurs documentaires, dont d'abord La mystérieuse croix d'Agadez, les documentaires Tagalakoï et la lutte contre la désertification au Niger en 2006. Et ensuite, en 2008, Sorko, maître de l'eau entre tradition et modernisme. Tu persistes en 2006 avec les documentaires Madame Courage et le chemin de l'intégration, qui a reçu le prix du meilleur documentaire, d'ailleurs, au festival CLAP Ivoire à Abidjan. Alors, compte tenu de ton expérience de cinéaste nigérien, est-ce que tu peux nous éclairer sur l'état des lieux, des conditions de la production cinématographique au Niger? C'est-à-dire, par exemple, quelles sont les principales contraintes pour un cinéaste qui veut produire un film au Niger actuellement?
Voilà, donc... Niger, les conditions de production sont vraiment trop compliquées parce qu'on a un problème de moyens. Au Niger, tous les producteurs n'ont pas la possibilité d'avoir des financements étrangers. Donc, nous sommes chaque fois obligés de chercher nos financements localement, donc au Niger. Et jusque-là, les gens, en tout cas les bases de fonds ou les partenaires, n'arrivent pas à comprendre l'impact ou l'intérêt de la production cinématographique. Ce qui fait que c'est trop compliqué d'avoir des financements. En tout cas, moi, je m'arrange à chaque fois de financer moi-même mes propres productions avec la contribution ou l'aide de mes amis. Donc, ça me permet de ne pas perdre du temps à chercher. Parce que si tu entres au Niger, si tu veux vraiment boucler ton budget, c'est une question de 5-6 ans de recherche de financement, des financements qui ne vont jamais arriver. En tout cas, au Niger, on a ce problème. Deuxièmement, on a un problème de techniciens, des bons techniciens. Localement, ça n'existe pratiquement pas. Donc, on est obligé de faire appel à des techniciens étrangers, notamment des techniciens burkinabés ou ivoiriens qui viennent souvent nous prêter main-forte. Donc, tout ça, là, c'est des problèmes de formation. Donc, c'est réellement ça qu'on rencontre actuellement au Niger.
OK, d'accord. Et le continent africain a produit d'éminents cinéastes, Sembene Ousmane, Timité Bassori, Mustapha Alassane, Oumarou Ganda et bien d'autres. Ils font partie de la vieille garde qui ont tous milité durant les années 70 pour soutenir le cinéma d'auteur en lutte pour la réappropriation de leurs propres images et pour soutenir la diffusion du 7e art sur le continent africain. C'est notamment grâce à ces pionniers qu'est né le FESPACO à Ouagadougou en 1972. Et ce festival a impulsé la diffusion cinématographique africaine sur le continent et partout dans le monde et a même inspiré la création de l'actuel festival Vue d'Afrique en 1984. Et toi, Moussa, qui fais partie de la nouvelle vague de cinéastes nigériens, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les conditions de la diffusion maintenant des films qui sont produits par les cinéastes africains, la diffusion sur le continent?
OK. Bon, sur le continent africain, on a la diffusion. Je crois que vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a plus de salles de diffusion. Au Niger, il n'y a qu'une seule salle de diffusion qui diffuse vraiment dans de très mauvaises conditions avec un data show, avec un lecteur VHS, tout ça. Donc, il n'y a pratiquement aucune salle professionnelle de diffusion cinématographique au Niger. Ça n'existe pas. Et je crois que c'est un problème que beaucoup de pays africains rencontrent.
Quelles sont les alternatives?
Quand on produit, on ne vise que... on ne vise que la télévision. On ne vise que les télévisions. Donc, on ne produit que pour les télévisions, contrairement à l'ancienne génération qui arrive vraiment à tourner dans les salles de cinéma.
D'accord.
En Europe, ou dans beaucoup de pays, on ne diffuse plus. En tout cas, on diffuse moins, de moins en moins les productions africaines. Nous aussi, on a un problème parce qu'il n'y a plus de salles. Donc, tout ce que tu produis, tu es obligé seulement de l'exploiter à la télévision. Mais quand même, avec ma toute dernière production, Assez Amour Fatima, j'ai pu transformer le palais de congrès de Niamey en salle de cinéma. Ça a été un peu compliqué, il faut louer la salle qui coûte 1 million de francs CFA, tout ça là. J'ai pu gérer, j'ai organisé 2 projections, en tout cas la grande première de mon film, je l'ai organisée au palais de congrès de Niamey. Les gens sont venus, en tout cas ça, les 1500 places du palais de congrès étaient pleines. Donc ça, du coup on comprend qu'en Afrique, les gens aiment encore le cinéma. Au Niger, les gens aiment le cinéma, les gens veulent se déplacer. Mais le problème, c'est les salles qui manquent. Donc, du coup, on se décarcasse à transformer souvent des salles de conférence en salles de projection pour permettre aux gens de voir tout ce qu'on arrive à produire. La semaine passée, oui, je profite pour vous dire que j'étais juste la semaine passée en train de projeter mon film dans la région de Maradi. Mais on l'a utilisé dans la maison des jeunes. On a fini à faire la projection à la maison des jeunes de Maradi. C'était pas vraiment le cadre idéal, mais quand même, on s'est débrouillé avec.
D'accord. Alors, Moussa, on te souhaite beaucoup de succès et bon courage. Et pour le mot de la fin, quel conseil veux-tu partager avec les jeunes qui rêvent de devenir cinéastes?
C'est très compliqué. Donc, on ne peut pas faire du cinéma sans vraiment vivre, parce que le cinéaste doit vivre, il a une vie, il faut des moyens. Donc, malheureusement, en Afrique, le cinéma ne nourrit pratiquement pas. Moi, je conseille à la nouvelle génération de chimérer la production audiovisuelle, peut-être d'avoir un petit métier à côté, et en plus de faire la production audiovisuelle, donc de travailler dans le cinéma. Mais la dernière chose aussi, moi, je demande à ce que les gens, l'essentiel, c'est que les gens travaillent, les gens trouvent. On est capable aujourd'hui de faire des très bons films avec rien, de faire mieux avec peu. L'essentiel, c'est de faire maintenant. L'essentiel, c'est de produire maintenant et de ne pas attendre des financements qui n'arrivent jamais.
Moussa, merci infiniment de nous avoir accordé cette entrevue. Nous t'attendons dès la semaine prochaine ici à Montréal pour la présentation de ton long métrage « Aïcha, amour ou châtiment » qui sera projeté en salle le 2 mai prochain.
20 secondes.
Oui,
au Festival Vue d'Afrique.
Deux fois, le lundi 01, oui, le lundi et le 4 à 16h.
D'accord. Merci infiniment, Moussa Amadou Djengari. Thank you.
Et bienvenue, re-bienvenue à Amandla, votre émission d'information hebdomadaire et d'analyse sur l'Afrique. Donc, nous allons poursuivre maintenant en compagnie de Gwen, qui est avec moi en studio. Bonjour, Gwen.
Bonjour.
Alors, on va parler un peu de ce qui se prépare. En fait, ce vendredi, il y a un Forum international investissement minier et développement en Afrique, état de la question, rôle et responsabilité des acteurs. Et en fait, bon, comme vous le savez, pour ceux qui écoutent l'émission régulièrement, on suit quand même de près toute la question de l'industrie minière en Afrique. Et puis, bon, on sait que le Canada est un des grands joueurs de l'industrie minière en Afrique. Alors, il y a quelques semaines, il y avait un événement à l'Université Concordia qu'on a couvert sur le Congo. Le Congo qui est un peu au centre de cette industrie minière-là, qui est un énorme puits de gisements pour les compagnies minières. Et on sait que ça se passe dans des conditions absolument horribles et qui ne bénéficient absolument pas le Congo, et on sait qu'il y a des enfants qui travaillent dans des mines et dans des conditions horribles. Enfin, on suit cette situation-là depuis plusieurs années déjà, et on se souvient évidemment du livre Canada, Noir Canada, sur l'industrie minière qui a jeté un pavé dans la mare et qui a amené plusieurs poursuites contre les auteurs de ce livre-là. Donc, en fait, l'industrie minière, c'est un sujet très chaud, et aussi je mentionne que Richard Desjardins fait un film qui va s'intéresser à l'industrie minière qui s'appelle True Story. Donc, ça va être dans l'actualité de plus en plus, selon moi, en tout cas, selon ce qu'on voit. Et puis, c'est pas la première fois qu'il y a des événements sur les mines, et c'est pas la première fois que le nom de Denis Touga va être mentionné dans cette émission, puisque c'est une personne qui est en train de suivre de près ce qui se passe dans l'industrie minière, particulièrement en Afrique. Denis Touga est avec l'organisation Entraide Missionnaire, et c'est eux qui sont une des co-organisations, co-organisateurs plutôt, de ce forum international-là, co-organisateur avec Canadian, le réseau canadien sur la... sur la responsabilité des comptes des entreprises, ou en fait en anglais c'est Canadian Network on Corporate Accountability, et également le GRAMMA, qui est le groupe de recherche sur les activités minières en Afrique. Et ce forum qui a lieu vendredi est aussi organisé, je pense que c'est important de le mentionner, avec de l'appui des Steel Workers Humanity Fund, donc le Fonds humanitaire des métallos, mais aussi avec Patrimoine Canada, le CRDI, l'ACOSI et l'Église unie du Canada. Enfin, donc c'est un gros forum avec des invités de marque. Denis Touga va nous les présenter dans quelques instants. Donc j'ai parlé avec Denis Touga, et premièrement, je lui pose la question en ce moment, compte tenu de tout ce qui se passe, pourquoi avoir décidé d'organiser ce forum sur l'industrie minière?
Si on touchait les activités minières, je dis au Canada, à Toronto, Ottawa et à Montréal également, sur tout ça d'aspect, l'aspect qui manquait le plus, hein, d'après nous, l'aspect qui a été vraiment négligé, c'est l'aspect du développement lié aux investissements miniers. Est-ce que les investissements miniers apportent vraiment le développement dans les pays en voie de développement? Et là, nous, comme on est spécialisé pour l'Afrique, on a donc décidé de toucher, d'aborder cette question de manière un peu plus approfondie maintenant.
Et l'investissement, c'est vraiment une question d'actualité en ce moment au Canada?
Absolument, ça l'est depuis un certain temps, puisque le Canada continue et reste une superpuissance en termes d'investissement minier, particulièrement en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde, mais c'est évident en Afrique. Et puis, au niveau du continent, les pays miniers, riches en ressources naturelles, se posent vraiment des questions très importantes, remettent en question la manière de faire depuis deux décennies dans le secteur minier. Et on veut se faire écho ici pour interpeller autant les entreprises que les gouvernements canadiens qui supportent un modèle d'investissement et de développement lié au secteur minier qui ne semble pas du tout correspondre à ce que les Africains désirent.
Oui, Denis Touga, pouvez-vous nous présenter les personnes qui seront présentes lors de ce forum sur l'industrie minière?
Alors, on a la chance d'avoir avec nous M. Antonio Pedro. Lui, c'est Bon, un directeur du Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Est de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. C'est un Mozambicain qui travaille depuis de longues années dans ce secteur, la Commission économique. Il a été, il est toujours responsable d'un groupe de recherche spécifiquement sur cette question. Est-ce que les investissements miniers tels que pratiqués actuellement amènent le développement? Et ce qu'il va nous raconter, du moins c'est ce qu'il annonce, c'est qu'il va démontrer comment la manière dont ça se produit maintenant, ça n'amène pas le développement et ça n'amène surtout pas un développement durable et à long terme. Et il va donner plusieurs raisons. Ça, c'est le premier. On aura la chance d'avoir Mgr Gaetano Di Piero du diocèse de Muramanga, Madagascar. La conférence épiscopale de Madagascar, je vous le rappelle, est le premier pays où les investissements canadiens sont les plus importants. Il va donc parler de l'expérience de la commission épiscopale de Madagascar qui, voyant ce qui se passait dans de larges régions, dans de nombreux diocèses, a décidé de mettre sur pied des commissions, des projets, si on peut dire, pour plaider en faveur d'une meilleure gouvernance du secteur minier. Alors, il va nous parler de l'expérience de son diocèse de Muramanga. Ensuite, on aura avec nous M. Ousmane Déné, qui est canadien, mais qui est d'origine africaine, et qui est le responsable de l'organisation Publier ce que vous payez au Canada. Une ONG qui plaide pour que les entreprises disent ouvertement ce qu'ils paient au pays là où ils interviennent. Et il y aura évidemment M. Dan Lansana Kuruma de Guinée qui viendra nous expliquer dans son pays, à partir de son pays, comment les autorités, après plus de 30 ans d'investissements vraiment importants d'entreprises canadiennes et étrangères. N'oubliez pas que la bauxite qui est exploitée à Jonquière et à Alma vient de Guinée. Comment cela ne donne vraiment peu de résultats? Au contraire, il va tenter de nous démontrer comment ce type d'investissement a appauvri les gens et, est-ce qu'on peut dire, délégitimisé les autorités guinéennes dans le secteur minier. Voilà.
Oui, alors Denis Touga, ce forum international, c'est en fait, vous l'avez aussi intitulé, un dialogue tripartite entre la société civile, le gouvernement et l'industrie. Quel est votre espoir? Est-ce que vous voulez créer une discussion entre les différents intervenants?
Absolument. Vous l'avez bien dit, il y aura des représentants des organismes de coopération internationale, des représentants de l'entreprise et, heureusement ou malheureusement, une seule personne du gouvernement. Notre objectif est de faire en sorte que tout ce monde-là ait une prise de conscience de la manière dont on imagine, dont on entrevoit le développement lié au secteur minier en Afrique. On fait fausse route. C'est ce que nos correspondants et nos partenaires africains viendront nous dire. Dans un des textes qui sera disponible, c'est bien dit par les gouvernements et les chefs d'État africains, ce qui a été utilisé ailleurs dans le monde ne fonctionne pas. On le voit depuis deux décennies en Afrique. Il faut voir autrement. Et la conclusion de ça, c'est qu'il faut redonner le pouvoir et la légitimité aux États et aux gouvernements de gouverner, d'orienter leur secteur minier, ce qui, bon, n'est pas le cas. Et là, nous, ici, on fera des correspondances avec ce qui se passe au Québec et au Canada.
Donc, c'était Denis Touga, qui est d'entraide missionnaire et qui nous parle de ce forum international sur l'industrie minière, forum international intitulé « Investissement minier et développement en Afrique, état de la question, rôle et responsabilité des acteurs ». C'est un forum, je vais le rementionner tout à l'heure, mais je vous le mentionne, qui a lieu vendredi le 29 avril de 9h à 17h au Centre des archives nationales du Québec. Et puis, vous allez le trouver sur Internet au site concertationgrandlac.org. Alors, concertation, grand au pluriel et lac au pluriel, .org. Et c'est co-organisé là, avec le réseau canadien pour la reddition des comptes des entreprises entre aides missionnaires et le GRAMA, le groupe de recherche sur les activités minières en Afrique. Et en fait, on va peut-être
en discuter un peu.
Oui, on va sans doute être là et l'enregistrer et puis revenir là-dessus la semaine prochaine. Donc, ça va être intéressant. Mélanie, tu vas y être aussi. Alors, oui.
Oui, tout à fait.
Mais pour placer un peu dans le contexte de cet événement-là, faut dire, bon, il y a plusieurs intervenants qui sont intéressés à l'industrie minière et c'est quand même, Gwen, une des rares fois où la société civile, le gouvernement et l'industrie sont réunis.
Ils sont ensemble.
Est-ce que ça va être intéressant ou pas?
Ben, écoute, on a déjà fait cet exercice il y a peut-être presque une décennie maintenant. C'était les mêmes joueurs. C'était ici au Canada, le gouvernement canadien, l'industrie canadienne et la société civile canadienne qui se sont regroupés pour essayer de négocier un pacte ou une façon de voir et faire les choses une nouvelle façon de faire, surtout par rapport aux pratiques de l'industrie canadienne minière. Alors, c'était des années de négociations, vraiment un travail extrêmement difficile, mais ils ont quand même réussi à publier un rapport qui allait quand même changer assez, d'une façon assez importante, les pratiques des compagnies minières canadiennes. Alors, ça a été soumis au gouvernement, et là maintenant, j'oublie si c'était le gouvernement Martin ou Harper. Peut-être c'était les deux, mais ça a été soumis, et je crois que c'est bien le gouvernement Harper l'a mis quelque part sur une tablette, oublié, tout le truc a été juste remettre à zéro. Alors, en fait, je vois cette initiative-là comme ça fait déjà plusieurs années. Alors, les gens, ils ont un peu repris leur force et c'est comme une deuxième tentative, mais c'était vraiment très décevant pour ces gens-là, les gens qui croient qu'en fait, par la négociation de ces trois groupes-là, on peut avoir un certain progrès. Et il y avait des éléments dans le rapport qui étaient très intéressants et qui aura responsabilisé l'industrie canadienne, si on croit en ça. Je sais, c'est un très grand débat, mais quand même, dans ces paramètres-là, ils ont quand même fait des grandes avances, mais ça n'a jamais vu le jour parce que le gouvernement Martin ou Harper l'a complètement ignoré. Ça a juste tombé.
Oui, mais c'est ça. Puis aussi, je me souviens de j'ai eu d'autres entrevues. J'avais fait une entrevue avec Denis Touga, je crois, il y a un an ou un peu plus qu'un an. Et en fait, c'est sûr que il y a des groupes au Canada qui sont impliqués dans un processus, je dirais, légaliste avec le gouvernement du Congo et, de lobbying officiel avec le gouvernement canadien. Alors, ils sont un peu dans une dynamique où ils vivent à l'intérieur d'un cadre de justice internationale, mais aussi de politique internationale, et ils doivent essayer de fonctionner, d'avancer là-dedans. Alors, je sais que ça doit être très dur et voire extrêmement frustrant constamment, parce qu'en fait, c'est sûr que dans tout ça, c'est l'industrie minière qui domine et qui contrôle les processus, puis l'industrie minière qui dit, c'est la logique du profit et d'essayer de fonctionner puis d'exploiter des mines avec on sait que l'industrie minière c'est souvent en bourse, c'est beaucoup d'investisseurs, c'est des gens qui attendent un retour sur l'argent. Donc c'est ça la logique capitaliste là derrière l'industrie minière.
Et aussi, on a un gouvernement qui les appuie à 100%, qui est la grande, le livre Noir Canada, ça démontre jusqu'à quel point le gouvernement canadien est là pour faciliter les choses pour l'industrie minière et pas le contraire, d'essayer de contrôler des pratiques de violation des droits humains, de violation contre l'environnement, que c'est absolument le contraire. Alors, le problème, je pense, dans tout ça, c'est que c'est toujours la notion de faire ça volontairement, que ce n'est jamais obligatoire, qu'on veut que l'industrie, par ses propres
moyens, se règlemente,
soit responsable. Ouais. Et C'est, en tout cas, ça va être intéressant à voir vendredi si ce point-là est soulevé, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut attendre qu'une industrie qui est tellement appuyée par le gouvernement soit vraiment ouverte à l'idée d'être contrôlée et d'avoir une législation qui contrôle leurs activités en Afrique.
Puis sans oublier que dernièrement, la loi, on a essayé de faire passer une loi,
Absolument.
De faire voter une loi sur la responsabilité des entreprises et ça n'a pas du tout passé.
Non, et c'était une loi pas très... C'était intéressant comme première étape, mais c'était pas très fort non plus. Et c'est ça n'a pas passé. Alors, il y a quasiment aucune volonté de la part du gouvernement de voir l'industrie contrôlée d'une façon efficace. Mais Mélanie, je pense
que... Oui, c'est en fait, c'est pour ajouter que... on regarde, et c'est important de surveiller les activités, de critiquer les activités des industries minières, mais faut-il aussi donner la voix puis la possibilité aux États africains pour qu'ils se donnent politiquement les moyens de surveiller les propres normes africaines qui doivent régir les activités minières internationales et locales au profit de leur propre population, parce que la voie, elle est vraiment à renforcer les États et non tant surveiller une industrie qui, au bout du compte, recherche le profit.
Oui, tout à fait d'accord. Mais en fait, c'est ça. C'est sûr qu'au Congo, ils n'ont pas les moyens de faire des suivis sur ce qui se passe.
Non, mais il y a aussi une complicité des fois.
Ouais.
Et c'est pour ça que je pense que c'est potentiellement un des enjeux qui pourrait être le plus intéressant et politisant pour les Canadiens qui sont préoccupés par la situation en Afrique, parce que la plupart de ces compagnies en Afrique sont ici au Canada. Alors, on aura les moyens, avec une vaste mobilisation des citoyens, de vraiment mettre des pressions qu'on n'accepte plus que ces compagnies font le pillage en Afrique.
OK. Bien, merci à vous deux d'avoir contribué à cette réflexion sur l'investissement minier. Je vous rappelle que c'est un forum international, investissement minier et développement en Afrique, état de la question, rôle et responsabilité des acteurs. Ça a lieu ce vendredi, 29 avril, de 9h à 17h, au Centre des archives nationales du Québec, qui est situé à l'édifice Gilles Hockart, 535 avenue Vigée-Est. Si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler vous pouvez aller plutôt peut-être aller sur le site web Concertation Grand Lac, alors Concertation Grand au pluriel, Lac au pluriel .org. Et pour des renseignements, j'ai le numéro ici de Denis Touga, alors c'est le 514-270-6089, 270-6089 dans le 514, ou encore Gramma, G-R-A-M-A. @ucam.ca. Donc, restez avec nous. C'est l'émission Amandla. Dans quelques instants, on va vous parler du Burkina Faso.
Have you ever sat in your car with the radio on and thought, what goes on in there?
Well, now's your chance to find out at CKUT and McGill Conservatory Day Camp's new summer youth radio camp.
You can learn to DJ, produce radio segments, conduct interviews, and at the end of it all, create and host your own show with the rest of your group.
This year, the camp will run from the 27th of July to the 19th of August in 3 1-week-long sessions for 10 to 13-year-olds and 2 2-week-long sessions for 14 to 17-year-olds who want to specialize in journalism and documentary or music and sound art.
Sound good? For more information or to register, go online to ckut.ca or call us at 514-398-5505.
And while you're there, take a look at McGill Conservatory Day Camp's other performing arts camps at www.mcgill.ca/conservatory/camps.
Hope to see you this summer!
CKUT is looking for a spoken word coordinator. This individual will be responsible for the development and the administration of both the spoken word department and CKUT radio station. Duties will include ensuring that the spoken word programming fulfills its requirements as determined by the CRTC and CKUT's promise of performance. Recruiting and training volunteers, maintaining and cultivating community contacts and resources, providing direction for spoken word shows, and initiating and coordinating special programming projects. The candidate should have radio experience, be bilingual, and familiar and engaged in the arts and culture communities in Montreal. This is a full-time position with a salary of $14.65 per hour with 4 weeks vacation. If you're interested in this position, please forward your resume with a covering letter to CKUT Hiring Committee, Spoken Word Coordinator, 3647 University Street, Montreal, Quebec, H3A2B3, or by fax 514-398-8261, or you can email it to hiring@ckut.ca. The deadline for application is Tuesday, May 3rd. Only those being considered for an interview will be contacted.
Wednesday, May 4th. Join us to launch the Montreal Media Co-op, 5 p.m. to 10 p.m., 10 Des Pins West, number 312, with tunes from DJs Grand Funk, Chris and Aaron Maiden, and Tasty Food by Donation. Featuring a panel discussion on building community-based radical media in Montreal, the Montreal Media Co-op is an open, participatory, and grassroots news outlet. Check it out at montreal.mediacoop.ca. Help launch the Montreal Media Co-op Wednesday, May 4th, 5 p.m. at 10 Avenue des Pins West, number 312. This is a CKUT 90.3 FM co-presentation.
Bonsoir, vous êtes à l'écoute d'Amandla, à CKUT 90,3 FM. Depuis février et surtout dans les dernières semaines, nous témoignons une révolte de très grande envergure au Burkina Faso. Une révolte populaire, mais aussi une révolte de l'armée et de la garde présidentielle. Alors, la question se pose, est-ce qu'on voit le début de la fin du régime Blaise Compaoré? Pour nous aider à répondre à cette question, nous avons avec nous en studio Ousseni Ouédraogo, qui est un ressortissant de Burkina et un militant syndical, et aussi un membre du groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. Il était tout récemment au Burkina Faso. Bienvenue, Ousseni.
Oui, merci, Gwen.
Alors, plusieurs disent que l'élément déclencheur de la révolte au Burkina Faso est la mort de l'étudiant Justin Zongo, tué par la police en février. Mais d'après toi, quelles sont les conditions sur le terrain qui ont fait que la révolte a pris une telle ampleur?
Je vous remercie. Bon, pour répondre à cette question, je dois dire que c'est assez compliqué. Mais on peut simplement dire qu'en fait, la crise de février, qui est née à partir de la mort de l'élève Justin Zongo de Kudugu, n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Au Burkina Faso, depuis 24 ans, c'est un même individu arrivé au pouvoir par un coup d'État dans des conditions que l'on sait aujourd'hui, en remplaçant son camarade et frère d'armes dans le sang. Ce monsieur ne se maintient au pouvoir que par la ruse et que par l'injustice, en créant en fait deux Burkina Faso, le Burkina des riches qui l'entourent, le Burkina des pauvres qui voient la pauvreté s'aggraver de jour en jour. Les morts récurrentes depuis Sankara, on n'en compte pas. Donc jusqu'à dernier événement de Kudugu, donc les élèves ont dit on n'en peut pas, nous voulons la justice. Surtout que le gouvernement continue d'abuser du mensonge pour cacher, en fait, la réalité. Alors, on a affaire à une jeunesse qui se laisse plus, qui n'est plus dans les mêmes ordres que nos prédécesseurs. Et cela explique que la situation soit difficilement contenue jusqu'à présent. Et en cela, on peut effectivement faire un parallèle avec ce qui se passe, ce qui s'est passé en Tunisie. Là aussi, c'est des jeunes révoltés, qui n'ont pas été soutenus directement par des partis qui ont fait la révolution. Donc chez nous aussi, ça échappe, si l'on peut dire ainsi, aux organisations authentiques qui luttent. Donc c'est un mouvement de jeunesse, des élèves, étudiants, et même les militaires sont à peu près de leur génération. Donc on assiste en tout cas à une situation parallèle à celle de la Tunisie.
Et toi, tu étais là tout récemment, au début d'avril. Est-ce que tu as remarqué dans le discours des gens quelque chose qui a changé, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des soulèvements au Burkina Faso sous le régime de Blaise Compaoré, notamment il y a une décennie avec l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Il y a eu des grands soulèvements, les gens étaient très fâchés contre le régime, mais Blaise Compaoré, il était toujours au pouvoir, il n'y avait vraiment pas une vraie menace contre son pouvoir. Est-ce que tu as le sentiment que c'est différent cette fois-ci, que le discours des gens a changé?
Oui, j'ai une nette impression que quelque chose se passe. Et effectivement, comme vous l'avez dit, je viens d'arriver du Burkina où j'allais passer 2 mois. Mm-hmm. Donc les premiers événements m'ont trouvé là-bas. Je dois dire même que j'ai pris l'avion sous couvre-feu, assez précipitamment là. Donc, l'ambiance, l'atmosphère qui règne là-bas, c'est comme une atmosphère de fin de règne. Mmh. Ça, c'est l'impression que j'avais, c'est l'impression de beaucoup, et même des gens qui non instruits, qui décrivent la situation comme une chambrière, une vieille chambrière. Quand on fait, on colle par là, ça se trouve par là, vous voyez un peu l'image. Mmh. Voilà, les gens décrivent la situation comme ça. Même ceux qui n'ont même pas fait l'école voient que la situation est grave. Surtout que ça a touché, quand on parle des militaires au Burkina, il n'y a que eux qui maintiennent en fait la sécurité du pouvoir. Et tant que les militaires sont avec le chef de l'État, il peut se foutre, excusez-moi le terme, mais il peut ne même pas s'occuper de son peuple, parce que c'est ce qu'il fait. Il organise justement sa sécurité, et puis le reste, rien ne l'inquiète. Vous pouvez écrire, vous les journalistes, vous pouvez écrire sur votre dos, comme le disait Norbert Zongo dans le temps. Ça passe comme de l'eau sur les plumes d'un canard, tout simplement. Donc, il n'y a rien à foutre éperdument. Mais aujourd'hui, que ces mêmes éléments, abusés comme en fait tout le reste du peuple, parce que c'est eux qui travaillent, mais qui ressentent que les fruits de leurs efforts se concentrent entre les mains de l'élite, en fait, qui gère le pouvoir. Si aujourd'hui ces éléments se révoltent contre leur mentor, alors ça inquiète plus d'un et les gens pensent qu'effectivement, ça ne peut qu'être que le cheminement vers la fin, tout simplement. Et c'est ainsi que nous voyons la situation. Tous les éléments sont réunis. Aujourd'hui, on peut dire que les conditions objectives d'un changement au Burkina sont réunies. Il reste que l'élément subjectif. Et là-dessus, effectivement, les jeunes ont besoin plus d'encadrement avec les structures qui existent déjà. Et je pense que la situation devrait aller de soi.
Est-ce que tu es étonné si on a eu une discussion il y a 3 mois où je t'aurais posé la question, est-ce que le régime de Blaise Compaoré affaiblit? Est-ce qu'il y a un vrai challenge? Est-ce qu'il est en danger de perdre le pouvoir? Qu'est-ce que tu aurais répondu il y a 3 mois?
Bien, il y a 3 mois, on venait de sortir d'une élection où Blaise Compaoré a été élu à hauteur d'homme, comme ils le disent, c'est-à-dire des scores assez soviétiques, 80%. Alors, donc, on ne pouvait pas s'imaginer, effectivement, que subitement, un mois après, puisqu'il a renouvelé le gouvernement, le même premier ministre qu'il y a depuis 3-4 ans a été reconduit, les mêmes hommes sont introduits dans le gouvernement, comme si tout allait sur des roulettes. Tant que sa sécurité n'est pas perturbée, personne ne pouvait lire les failles qu'il y avait dans le système. À présent que c'est fait, il me semble très difficile de recoller ces morceaux-là. Voilà, ça c'est l'impression que maintenant j'ai à la lecture des événements.
Et là maintenant, quand on regarde la situation en Tunisie et en Égypte, on comprend très bien que ce n'est pas assez juste de chasser l'homme, que les structures de pouvoir sont beaucoup plus fortes et complexes et enracinées qu'un homme. Et j'imagine que c'est exactement la même chose avec Blaise Compaoré, même s'il part demain. Est-ce que l'opposition est dans une position de vraiment mener un changement fondamental? Autrement dit, c'est quoi la nature de l'opposition? Il y a les gens dans la rue et il y a aussi les partis d'opposition qui viennent de déclarer qu'ils vont demander que Blaise Compaoré quitte le 30 avril. Mais est-ce que cette opposition-là est en mesure de mener un changement profond?
Oui, d'emblée, je vais dire que oui. En 1987, quand Blaise Compaoré est arrivé au pouvoir, il avait exactement 33 ou 34 ans. Sans expérience politique, c'est simplement un militaire parce que l'exercice de la profession l'avait placé là. Aujourd'hui, nous avons des cadres dans l'opposition, nous avons des cadres un peu partout qui ont le savoir intellectuel, qui peuvent effectivement prendre le relais de ce peuple-là. Je pense qu'il n'y a pas une situation où un peuple est incapable de s'organiser. Maintenant, je parlais tantôt d'un élément subjectif qui manque effectivement pour être un catalyseur pour effectivement ce changement-là. Le peuple est en train de s'organiser. L'opposition dont vous parlez tantôt, l'opposition légale, a déjà annoncé les couleurs en appelant à un grand rassemblement le 30 avril pour demander purement et simplement le départ de Blaise Compaoré, puisqu'il n'est plus à même d'assurer la sécurité publique. Je rappelle que lorsque les militaires ont commencé à tirer, lui-même, il a fui avec sa famille pour se réfugier dans son bunker, pour parler ainsi, parce que c'est l'expression à la mode, à 30 km de la capitale. Quand le capitaine s'enfuit, il me semble qu'il y a nécessité, effectivement, de revoir les choses. Et aujourd'hui, l'opposition s'organise. J'ai pleine confiance qu'il y a, effectivement, des groupes. Je pense même qu'un mouvement clandestin de plus de 30 ans qui coordonnait les luttes vient donc de se mettre à jour. On a espoir que peut-être si ces gens-là se mettent dans la coordination de la lutte, ça aboutisse quand même à une situation de changement sans grand drame. Parce que drame, il y a déjà eu, parce qu'il y a moins d'hommes qu'il faut déplorer.
Ma question, c'était plutôt politique, dans le sens que c'est sûr qu'au niveau organisationnel, les Burkinabés ont évidemment la capacité de s'organiser, de se mobiliser. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est la vision politique des choses. Est-ce que d'après toi, dans ce paysage politique au Burkina Faso, il y a un regroupement ou une capacité? Parce que le Burkina Faso, ce n'est pas juste Blaise Compaoré, c'est France-Afrique. Il y a des intérêts très puissants qui ont gardé cet homme en pouvoir toutes ces années-là. Alors, c'est un peu plus ça, ma question, c'est... Est-ce qu'il y a des opposants qui ont une plateforme politique qui tient en compte et qui est préparée à vraiment mener cette lutte-là, qui est une lutte en fait même plus longue et plus difficile?
Là-dessus, effectivement, il y a un contexte national, international, qui va effectivement dans le sens que vous dites, la France-Afrique, etc. Mais je pense qu'en 1983, lorsque Thomas Sankara est arrivé au pouvoir, ça a surpris plus d'un. Les réseaux France-Afrique n'ont pas eu prise réellement sur ce régime-là. Et aujourd'hui, le peuple est capable de prendre, en tout cas, son destin en main. Ceux qui ont intérêt à travailler avec le Burkina Faso, avec ces dirigeants-là, doivent revoir leur copie et y aller. En cela, je pense qu'effectivement, il y a des forces organisées. Maintenant, l'élément déclencheur pour que ces types d'organisations puissent effectivement être catalyseurs d'un véritable changement reste réellement à voir. Il reste en tout cas un pas. Et c'est pourquoi ils s'organisent toujours. Je pense que ça ne saurait tarder, quoi, pour moi. Je suis très optimiste, peut-être.
Mais parfait. C'est toujours bien d'être optimiste et c'est sûr qu'ici à Mandla, on est très encouragé par ce qui se passe là-bas et on va continuer de regarder ça de près. J'espère que tu pourras revenir bientôt pour continuer la discussion.
Merci beaucoup.
Gwen. Merci aussi.
Et bon travail.
Alors, on écoute un petit extrait de Burkina Paspanga. Pardon, j'ai de la difficulté à prononcer ça. Donc, c'est un album de musique, de musique électro, en fait, du Burkina. On en écoute seulement un extrait parce qu'on veut vous parler du Festival Vue d'Afrique qui s'en vient. Le Festival Vue d'Afrique, c'est c'est la semaine, ça commence ce vendredi aussi. Donc on attend toujours avec beaucoup d'impatience ce festival et on a envie de vous en parler, de vous encourager d'y aller. On va faire un petit tour de table. Mélanie, il y avait des films. En fait, tu parlais du film tout à l'heure, Aïssa.
Oui.
Donc on veut juste te rappeler que ce film-là est présenté.
Oui, j'aimerais rappeler que Aïcha, Amour ou Châtiment de Moussa Amadou Djingari, cinéaste nigérien, est présenté le 2 mai à 18h30 la salle Radio-Canada.
Ouais.
Et j'aimerais aussi mentionner le film documentaire France-Afrique qui a deux volets d'environ 60 minutes chacun. C'est un film en deux parties de Patrick Banquet qui sera présenté ce samedi 30 avril à 13h30 sur les mécanismes de la France-Afrique entre la France et les anciennes
colonies. Et on disait, il y a un film Burundi, tu le connais?
C'est un film qui traite du social et politique avant la colonisation des Allemands et des Belges et pendant la période coloniale et avec des archives nationales inédites.
OK. Et on parlait des mines aussi. Alors, il y a un film qui s'appelle Black Diamond, portrait d'un réseau international de spéculation et de trafic de jeunes garçons. Donc, ça aussi, c'est présenté. En fait, les documentaires, ça nous intéresse beaucoup là, parce que c'est quand même... c'est rare qu'on voit des documentaires sur l'Afrique. Là.
Et cette année, la section documentaire du Festival Vue d'Afrique est particulièrement excellente.
Oui, d'accord. Alors, on va laisser aux gens d'aller voir sur le site de Vue d'Afrique et d'aller voir les films au cours de la prochaine semaine au festival, qui est un très bon festival de films à Montréal. Alors, on se laisse un peu là-dessus. Et je remercie rapidement tout le monde. Alors, merci Mélanie, merci Gwen d'être ici.
Ou Sunny d'être venue
nos invités.
Studio, nos invités, oui, c'est ça. Puis on sera de retour la semaine prochaine avec un spécial sur la Guinée-Bissau.
OK.
Je m'excuse, Guinée-Équatoriale.
Guinée-Équatoriale. Alors, revenez-nous la semaine prochaine à Mandla tous les mercredis de 7h à 8h et aussi disponible sur les archives de CKUT à ckut.ca. Vous pouvez trouver les émissions jusqu'à 6 mois en arrière. Bye.